Alors, je vais juste faire une toute petite mise au point avant de parler du sujet qui m'intéresse ce matin. C'est quelque chose que j'avais préparé, qu'on avait vu avec les ados plusieurs samedis, enfin deux samedis. Et en fait, Daniel avait vu mes feuilles en rentrant dans la salle. Il fait « Ah, vous parlez de ça ?» Et puis, on avait discuté un peu. Et puis, je dis « Ben ouais, moi, je trouve ça intéressant. » Il me dit « Ben, ce serait bien de faire un rappel à l'église. » Et en fait, après avoir parlé avec Daniel, plusieurs personnes sont venues nous voir et on a eu l'occasion de discuter un tout petit peu de ça. Et je me suis dit, effectivement, je pense que ça nécessite un rappel. Alors, ça peut paraître tout petit, tout bête, mais je suis sûr que c'est important et c'est sur des choses comme ça où on peut être freiné dans notre marché avec le Seigneur. Alors, de quoi il s'agit ? De l'homéopathie. Donc, il y en a qui vont faire des sourires parce qu'on en a discuté. Mais donc c'est vraiment pas je profite pas de l'occasion pour répondre comme ça en me disant tiens je suis au micro je vais en profiter, mais c'est vraiment en m'y étant intéressé, je me suis dit ces choses là faut les partager parce qu'il y a des choses utiles à savoir à ce propos là. Donc Daniel est d'accord avec moi et je suis quasiment sûr que quand Paul aura vu ça il sera d'accord avec moi. Alors l'homéopathie, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits granules qu'on comprend, que beaucoup de gens prennent. Ça peut se présenter sous forme de gouttes aussi, donc c'est un médicament et ça sert à guérir un petit peu tout, je pense. Nous, on nous l'a proposé pour les dents de Raphaël, pour les vomissements, quand on est fatigué, quand on a de l'anxiété, enfin, il y a tout. L'homéopathie peut servir à tout. Donc à la base, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plantes en général. Et ça, l'homéopathie, ça a été inventé par un médecin allemand qui s'appelle Samuel Hahnemann, qui était vivant en 1755, qui est mort en 1843. Et en fait, il n'était pas satisfait de la médecine à son époque, et il a émis l'hypothèse qu'en fait, ce qui causait les maladies, eh ben, ça pouvait servir à les guérir aussi. Donc ça, c'est son point de départ. C'est le semblable guérit le semblable. Donc si tel champignon vous donne des vomissements, eh ben, si on vous redonne de ce champignon-là, ça peut guérir les vomissements. Alors, pas exactement comme ça, forcément. L'idée, la deuxième idée de l'homéopathie, c'est qu'il faut diluer tout ça. Donc en fait, on prend le produit de départ qui vous a causé les vomissements et on le dilue un certain nombre de fois. Et ce que vous prenez, vous, à la fin, c'est ce qui a été dilué X fois. Alors, le principe de la dilution. C'est pas très compliqué. Si vous avez une petite fiole à gauche qui contient une certaine quantité de produit, donc là on va dire qu'il y avait 20 molécules du produit. On en retire 2 et on les met dans la même quantité de liquide. On a dilué par 10. Vous suivez jusqu'ici? C'est pas compliqué. Si on prend maintenant, si on estime qu'il y avait 100 molécules, qu'on n'en prend qu'une seule et qu'on la dilue dans la même quantité, on a dilué par 100. Alors forcément, il n'y a pas toujours 100 molécules dedans, mais s'il y en a 100 millions, on n'en prend qu'un million et on les redilue dans le même volume. On a dilué par 100. Et donc ça, au niveau de l'homéopathie, la dilution par 100, c'est la centésimale hahnemannienne qu'on abrège CH. Donc la plupart des traitements homéopathiques sont notés un certain nombre CH. Donc là, si j'ai dilué une seule fois par 100, je suis à CH1. Donc il reste 1% dans ma deuxième fiole. Ça peut s'écrire 0,01, ça peut s'écrire 10 puissance moins 2, s'il y a encore des scientifiques dans la salle. J'avais prévu de le faire par morceau, mais comme je suis aussi aux vidéos. Donc si on dilue par 100, on a CH1. Si on dilue encore une fois le résultat par 100, on est à CH2. Donc on a dilué, il nous reste 0,01% de ce qu'on avait au départ. Donc on est à 0,001, 10 puissance moins 4. 3 fois par 100, on est à CH3. Donc là vous suivez le principe. CH4, on a dilué 4 fois par 100. Donc déjà qu'à CH4, il nous reste 0,00001% de ce qu'on avait au début. D'accord? Et donc on peut aller jusque CH30, et j'ai même lu que dans certains pays, on allait jusqu'à CH200. D'accord? Il me semble, en tout cas de ce que j'ai pu trouver, je pense pas qu'on ait moins que CH8 dans les médicaments homéopathiques. Et normalement, les homéopathes vont toujours jusque CH23. Pourquoi? Parce qu'à partir de CH23, on estime qu'il n'y a plus rien dedans. Mais c'est le but. C'est le but. D'accord? Parce que Donc si tu peux continuer. Si on arrive à, si on prend CH10, donc qu'est-ce que ça représente tous ces 0, 0, 0? Si on a dilué 10 fois par 100, donc CH10, c'est comme si on prenait une goutte du produit et qu'on le diluait dans le lac Léman tout entier. Donc 89 millions de mètres cubes. D'accord. CH8, on est peut-être un petit peu moins. Ça ne changera pas énormément la chose. CH23, c'est comme si on prenait une molécule d'eau, une seule, et qu'on la diluait dans tous les océans de la Terre. Et la suite. Et CH40, c'est comme si on prenait une molécule d'eau et qu'on la diluait dans la masse de tout l'univers. Donc on est d'accord, votre molécule, pour l'avoir, il faut avoir un bol assez important quand même. Une grande chance. Donc ça, c'est le principe de la dilution en homéopathie. Y a, scientifiquement, on est sûr qu'il n'y a rien dans vos cachets. On est d'accord ? Ça, globalement, c'est admis par quasiment tout le monde, et même la plupart des homéopathes sont d'accord pour dire que le but, c'est justement qu'il n'y ait plus de molécules actives dedans. Alors, pourquoi le but, c'est qu'il n'y ait plus rien dedans, vous allez me dire. Parce que les homéopathes sont convaincus que c'est quand on dilue, l'action de diluer transfère une énergie à l'eau ou à l'alcool, ça dépend ce que vous utilisez pour diluer. Ça aurait été montré par des études scientifiques, comme quoi l'eau, elle garde la mémoire de ce qui était dedans. Donc vous l'avez tellement dilué, mais l'eau garde une certaine mémoire de ce qu'il y avait dedans, et ça influe sur vous. Ça a été publié une fois, et une publication qui n'a jamais été redémontrée parce qu'on n'y est pas arrivé. D'accord ? Donc, les trucs qui sont pas redémontrables en science, c'est toujours un petit peu litigieux. L'autre souci de cette explication-là, c'est que vous avez des impuretés dans votre eau. Même s'il y en a 0,001%, vous les concentrez à force de diluer, et au final, même si vous avez 0,001%, elles se retrouvent des millions de fois plus concentrées que votre molécule active de début. Donc, elles laissent leurs traces aussi dans l'eau, et elles annulent la trace du médicament aussi. Donc, il n'y a aucune raison pour expliquer que l'homéopathie, c'est efficace. Sauf une, qui est l'effet placebo. Alors, j'imagine que vous connaissez. Je sais plus si j'ai le. Non, je sais pas. L'effet placebo, c'est quoi ? C'est ce qu'on utilise, on va dire, pour tester les médicaments. Enfin, c'est pas qu'on l'utilise. C'est que si vous donnez un médicament à quelqu'un et qu'il est censé être efficace à 80%, il se trouve que 100% des gens sont guéris. L'effet placebo, c'est la petite différence entre les deux. C'est les 20% qui sont guéris, on va dire, de par leur tête. Si on peut le raccourcir un peu, l'effet placebo, c'est l'effet de votre mental sur votre corps. Alors vous allez me dire, oui, mais l'effet placebo, ça peut pas tout expliquer quand même. Si on s'y intéresse, c'est assez sympathique quand même. L'effet placebo permet en moyenne, avec tous les traitements, de guérir 30% de personnes. C'est pas mal, une sur trois. Donc si on vous donne du paracétamol, vous êtes déjà une chance sur trois de guérir. C'est sympa. Même si vous n'êtes pas malade, même si autre chose. Et dans certains cas, ça peut monter jusqu'à 80%. Donc, par exemple, les migraines, les dépressions, certaines maladies de ce genre-là, peuvent être juste guéries par l'effet que vous prenez un médicament et ça influe sur votre tête, votre mental, et donc ça joue sur votre corps aussi. Donc ça paraît bizarre, vous allez me dire, effet placebo quand même, ça explique pas tout, mais ça peut expliquer énormément de choses. Alors, des petits exemples pour vous montrer un peu, on en trouve un tas sur internet, donc j'en ai pris juste quelques-uns. Un exemple, c'est l'arthroscopie. Ceux qui savent pas ce que c'est, on fait trois petits trous dans le. Imaginons pour le genou, trois petits trous dans le genou, on insère des outils ou des caméras dans les trois trous et on va enlever des morceaux, réparer ce qui peut être réparé dans l'articulation. Donc c'est une technique qui est utilisée et ça permet d'éviter les douleurs en fait des articulations. Moi j'avais le genou qui bloquait par exemple et c'était un petit morceau de cartilage qui venait se bloquer dans l'articulation. Trois petits trous, on enlève ça et hop c'est fini. Ça permet de pas tout ouvrir le genou. Et donc il y a des chirurgiens de Houston aux États-Unis qui ont pris 180 personnes choisies au hasard et qui ont fait deux groupes. Donc ces 180 personnes avaient toutes des problèmes de douleur aux articulations. Elles ont toutes subi une arthroscopie, sauf que la moitié l'a subi réellement. On leur a fait les trois trous, on a vraiment vérifié tout ce qui n'allait pas. Et à l'autre moitié, on a juste fait les trois trous, on n'a rien fait d'autre. Les pauvres cobayes quand même, ils se font charcuter pour rien. Ouais, mais le taux de réussite c'est le même dans les deux cas. Dans les deux groupes, il y a le même taux de réussite de l'opération. Pas mal quand même. Un autre exemple, donc c'est un médecin à Southampton qui fait une expérience sur 200 de ses patients qui avaient des maux de tête, des maux de dos, de la fatigue et qu'on n'a pas pu trouver avec les examens la justification exacte de ce qui n'allait pas. À la moitié, il a fait un diagnostic très précis, il a affirmé que leur état allait s'améliorer. Ça allait changer rapidement, que ça allait aller mieux. À l'autre moitié, il a fait un diagnostic vague, ben je sais pas trop, vous revenez si ça va pas, des choses un peu comme ça. Et en fait, pour le premier groupe, donc sur les 100 patients du premier groupe, 64 étaient guéris. Alors qu'il n'a pas donné de traitement, on a juste discuté, il a vu tout ça. À l'autre groupe, celui pour lequel il avait été vague, 39 personnes seulement. Ça fait quasiment la moitié. Vous voyez, il y a quelque chose dans la façon de faire les choses qui va influer sur vous et qui va faire qu'on est guéri ou qu'on n'est pas guéri. La façon dont le placebo est donné peut changer aussi énormément les choses. À des patients, on a donné un traitement, et en fait, là, c'est aux États-Unis, donc ils le payent, le traitement. Et il y a des gens qui avaient payé un traitement avec une pilule à 2,5 $ la pilule. Attendez, j'ai raté ma ligne. Voilà. Et donc, en fait, 85% des gens étaient guéris. À l'autre groupe, on a donné la pilule, mais en promotion. Elle coûtait pas grand-chose. Il n'y avait plus que 61% des gens qui étaient guéris pour la même maladie. Ça veut dire que le prix de mon traitement va influer aussi. Si pour ma maladie, on me donne un traitement qui est vraiment très cher, qu'on me le fait savoir, ça peut aider à ce que je sois mieux guéri que si c'est le même traitement, mais qu'il n'est pas cher. On est bizarre quand même, hein. On est bizarre. Et en fait, il y a tout un tas de variables, par exemple la nature de l'emballage, la marque du médicament, la couleur du médicament, tout ça peut influer sur la façon dont on réagit et sur le pourcentage de guérison au traitement. C'est étonnant. Ceux qui s'intéressent à l'effet placebo verront qu'il existe un effet nocebo. Placebo, ça veut dire « je plairai » en latin. Nocebo, c'est l'inverse, « je nuirai ». C'est pour décrire l'effet de notre mental sur notre corps, mais quand c'est négatif. C'est-à-dire le médecin va vous donner quelque chose, vous allez produire les effets négatifs du traitement. Alors il y a des traitements, on le sait que c'est les effets négatifs. Mais si on vous donne un placebo et que vous développez les effets négatifs, c'est là où ça devient intéressant quand même. Et donc, ils ont fait des tests avec des patients et en fait, la couleur du placebo jouait sur les effets négatifs. C'est-à-dire que si on vous donnait un médicament qui était de couleur rouge, vous allez plutôt avoir des poussées de fièvre, des bouffées de chaleur, des accélérations du rythme cardiaque. Si on vous donnait un placebo qui était bleu, bien sûr, vous ne savez pas que c'est un placebo, hein, c'est le but du jeu. Si on vous donne le placebo bleu, vous allez plutôt avoir froid et avoir des ralentissements du rythme cardiaque. Intéressant aussi, n'est-ce pas ? Et un dernier point sur l'effet placebo, c'est qu'en fait, ça fonctionne même avec les bébés, même avec les animaux. Alors là, c'est un peu plus tordu. C'est-à-dire que les bébés, ça, je pense que les parents maintenant le savent, c'est des éponges à sentiments, à émotions. Si vous êtes stressé, votre bébé le sent tout de suite. Si vous êtes bien, il le sent aussi. Les animaux, la même chose. Et en fait, si vous donnez un traitement au bébé, vous êtes tranquillisé parce que vous lui donnez quelque chose. Et lui, il a des chances de guérir bien plus grandes parce qu'il sent que vous, ça va mieux. On est tordu quand même. J'ai trouvé ça super intéressant de regarder. Vous tapez effet placebo sur Internet et vous regardez. Et c'est réellement très intéressant. Et à mon avis, en tout cas, c'est la seule explication au fait que l'homéopathie, ça fonctionne. Et si vous considérez la méthode des médecins qui font de l'homéopathie, en général, ils passent beaucoup plus de temps avec vous, à vous écouter, à écouter les causes, à écouter même votre vie autour pour savoir comment ça se passe. Et rien que ça, ça joue sur vous, ça joue sur le fait que le traitement, le médecin, il l'a bien réfléchi, donc c'est que c'est le bon traitement. Et a priori, c'est la seule explication à l'effet placebo. Alors, et la Bible dans tout ça ? Ben, la Bible, elle dit rien contre l'effet placebo, bien au contraire. Donc ça, c'était les versets. Juste quelques versets. Donc, dans Proverbe 14, verset 30, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. On en a plusieurs dans les proverbes, en fait. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme, salutaire pour le corps. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et donc dans les psaumes, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. La cause de tout ce qu'il écrit David dans ce psaume, c'est l'iniquité, c'est le péché. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la tête influe sur notre corps, c'est en parfait accord avec la Bible. On n'est qu'une seule personne, il n'y a pas de raison pour que votre tête soit complètement indépendante et qu'elle influe absolument pas sur votre corps. Votre tête, elle fait partie de votre corps. Donc, j'en ai parlé avec un collègue au travail, et puis il me dit, et alors, je m'en fous. Si j'ai envie de payer pour du sucre et de l'eau, mais que ça marche. Alors, j'étais un peu bloqué, je me dis, y a pas tort. C'est pas bête. Et il me dit, au moins, j'enrichis pas les laboratoires pharmaceutiques qui refilent des cochonneries et des produits chimiques. J'ai rien contre la chimie, hein. J'enrichis pas les laboratoires pharmaceutiques, j'enrichis d'autres personnes, mais bon, souvent c'est des gens plus naturels, plus soucieux de l'équilibre économique et tout ça. Et donc il me dit, moi je préfère quand même si c'est que de l'effet placebo, je préfère prendre ces trucs-là. J'étais assez surpris. Et puis le problème c'est que lui, il y a une deuxième chose qui m'embête dans l'homéopathie, et ça, les gens pas chrétiens, ça va pas les choquer forcément. C'est le problème de l'origine de l'homéopathie. Samuel Hahnemann. Alors, celui qui a inventé l'homéopathie était franc-maçon, libre penseur, athée convaincu et tenant de l'occultisme. Il s'en cachait pas. Il prétendait lui-même avoir reçu sa méthode par le biais de révélations spirites. C'était un esprit qui lui avait parlé, qui lui indiquait la méthode pour l'homéopathie. Et donc, les citations de Hahnemann, si vous retrouvez son livre, vous pouvez les retrouver dedans. Il l'a mis par écrit lui-même, donc c'est pas l'invention. Dans son livre, donc, Samuel Hahnemann explique qu'à partir de la dilution C30, en fait c'est bien avant, la matière est à tel point réduite qu'elle présente une particule qui n'est plus quantifiable. Il n'y a plus rien dedans, pour être clair. Manifestement, par la dynamique de la dilution, la matière est réduite à sa substance intrinsèque et pure, et c'est là qu'elle présente tout son potentiel spirituel. C'est là la méthode, c'est qu'en fait, il le dit après, je pense, donc le troisième paragraphe, Hahnemann écrit, les dynamisations homéopathiques sont de véritables stimulateurs des propriétés médicinales cachées dans les corps naturels, qui peuvent ainsi agir sur notre esprit et notre vie. Il s'en cache pas, il agit sur l'esprit aussi. Donc il a dit lui-même que ces produits n'avaient pas un effet chimique, mais dynamique, qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière dynamique, hein, et que des forces particulières entraient en jeu. Il a aussi écrit, si on fait tomber une goutte de médicament dans un grand lac, le lac Léman par exemple, le mélange n'en fera pas un médicament, car la force serait absorbée. Mais en secouant fortement le liquide et en frottant la poudre en petites doses, ses vertus sont intensifiées. Selon Hahnemann, au moment de la confection des doses homéopathiques, une force passe du fabricant au médicament de façon mystérieuse. C'est là où c'est plus gênant, l'homéopathie, en fait. Et donc, très clairement, le fondement de l'homéopathie, c'est de l'occultisme. Ça a été donné par un esprit, et c'est fait d'une façon qu'il y a une force qui passe de l'homéopathe au cachet, à la solution. Alors, ça peut vous rassurer, vous en faites ce que vous voulez, mais actuellement, c'est plus des gens qui secouent les fioles et qui font les dilutions. Hein. C'est entièrement robotisé, donc bon. Mais l'origine de l'homéopathie reste là. Ça reste quelque chose de tout à fait occulte, et même si ça paraît anodin, on peut dire que c'est que des petits cachets, c'est rien de grave, je suis pas sûr qu'on ait les pieds à mettre dans ces choses-là en tant que chrétien. Donc le principe de l'homéopathie, si on regarde aussi, donc ça c'était l'origine avec le Samuel Hahnemann, le principe de l'homéopathie, je vous ai dit, c'est ce qui a causé la maladie, c'est ça qu'on va, on va se servir de ça pour guérir. C'est-à-dire que finalement, on guérit le mal par le mal. Ça, encore une fois, c'est un principe qui n'est pas très biblique. Si vous prenez dans Matthieu 12, verset 22, vous le connaissez, le paragraphe. Matthieu 12, verset 22, donc c'est les pharisiens qui amènent un démoniaque. Non, ce n'est pas les pharisiens, c'est des gens qui amènent un démoniaque aveugle et muet, et Jésus le guérit, de sorte que le muet parle et voit. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et en fait, ça continue dans les versets d'après. Jésus dit aussi, ou dites que l'arbre est, au verset 33, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il n'y a absolument aucun mélange dans la Bible entre le mal et le bien. Et Jésus, quand les pharisiens, donc dans ce paragraphe-là, disent ben, « c'est par Satan qui chasse les démons », il leur dit « c'est pas possible ». Le diable, il se chasse pas lui-même, il se combat pas lui-même. Le mal ne guérit pas le mal. Et si quelque chose guérit le mal, c'est forcément le bien. Et donc ça, c'est un avertissement pour nous aussi. On peut pas, en tant que chrétien, utiliser n'importe quel moyen pour faire ce qu'on veut. C'est la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est connu, mais c'est pas le moyen. Mais donc ça, c'est important pour nous de savoir qu'il faut pas mélanger les choses. Même si le résultat peut paraître bon, peut paraître, ben tiens, finalement, il y a quand même un bon taux de réussite, on n'a pas le droit d'utiliser ces choses-là. Et c'est dans l'occultisme, tout comme la voyance, tout comme consulter les morts, tout comme un tas d'autres choses dans l'Ancien Testament. Donc il y a d'autres versets qui sont peut-être même encore... Donc, toujours de Jésus dans Jean 3, la deuxième partie, surtout, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dans Romains 12, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et dans Romains 12, au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc je pense qu'il n'y a pas à discuter sur ce principe-là. On peut absolument pas utiliser quelque chose de mal pour faire du bien. Ça, c'est clair dans la Bible. Donc, pour moi, c'est les deux raisons pour lesquelles l'homéopathie, nous, on a dit non de manière très claire. Déjà, scientifiquement, il n'y a rien dedans. Et ça, c'est connu. Et il y avait d'ailleurs, il y a quelques années, l'Académie de médecine... qui avait publié un communiqué qui disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi c'était remboursé par la Sécu, en fait. Elle dit très clairement, il n'y a rien dedans, et pourtant, c'est remboursé à 35% par la Sécu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. D'accord ? Tous les médicaments doivent passer par là, avoir une autorisation, être comparé par rapport à un placebo, justement. Si votre médicament il donne 30% d'efficacité, ben, c'est pareil qu'un placebo, ça sert à rien. Donc on ne le met pas sur le marché. Et d'ailleurs, l'autorisation de mise sur le marché vérifie aussi qu'il n'y ait pas normalement de gros soucis avec le médicament. Alors, bon, des fois, ça reste à voir. Mais... Et donc là, l'homéopathie n'a pas fait ces tests-là. On ne l'a jamais testé contre un placebo. Alors, si vous demandez aux homéopathes, ils vous répondront que bah oui, mais on n'a pas l'occasion de le faire, on n'a pas pu le faire, on nous l'a pas autorisé. Bon, soit. Mais ça a pas fait sa preuve contre un placebo. Et la deuxième raison, donc, c'est spirituellement, le gars à l'origine de ça, Samuel Hahnemann, était occulte. Il a eu sa méthode d'une manière occulte, et le principe est absolument pas biblique du tout. Donc nous, c'est deux choses qui ont fait que ça, c'est bon, c'est réglé. Et alors je voulais juste mettre peut-être deux petits bémols. Alors c'est pas sur l'homéopathie du tout, là je suis intransigeant. C'est il y a des différences entre l'homéopathie et les plantes. Parce que les gens vont dire bah oui, mais les plantes c'est quand même bien tout ça. Oui, oui, absolument oui. La plupart des médicaments qu'on a sont issus de plantes, soit directement, soit on a regardé ce qui était l'implant et on a fait la même chose en chimie, c'est tout. Simplement, la quantité n'est pas la même. Si on vous donne un médicament, il y a bien des molécules actives dedans. En homéopathie, ce n'est pas le cas. Donc c'est une différence, vous trouverez dans les termes, entre homéopathie et allopathie. Et allopathie, c'est ce qui englobe tous les médicaments qu'on a d'habitude, où il y a réellement quelque chose dans votre médicament. D'accord ? Donc c'est effectivement, oui, les plantes, c'est très bien. C'est aller directement à la source du médicament plutôt que passer par la voie chimie ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout à fait différent de l'homéopathie. Il y a la méthode qui n'est pas la même, on dilue pas, on ne fait pas passer une force dans le médicament, et on n'a pas la même concentration. Ensuite, une autre chose qui est différente, c'est le vaccin. Vous allez me dire, bah, le vaccin, finalement, on vous injecte un virus et c'est lui qui vous guérit. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous connaissez le principe du vaccin, c'est que on vous injecte un virus qui est inactivé, déjà, ça évite de se prendre la maladie pour du vrai. Et donc, normalement, on broie les cellules du virus, je pense. Hein. Donc, il y a plein de morceaux de cellules de virus, on les injecte dans le corps, et en fait, c'est votre corps à vous qui va reconnaître le virus, qui va apprendre à le reconnaître, et qui va préparer sa défense. Et la fois d'après, quand le virus viendra réellement, vous le reconnaissez, vous savez à quoi il ressemble, et hop, on peut se défendre tout de suite contre lui. Donc, c'est pas le même principe. On vous soigne pas avec le mal, on vous met en présence du mal, et vous apprenez à vous défendre. Et là, d'un point de vue biblique, ça va beaucoup mieux. Parce qu'on est dans le monde, on est en présence du mal, et tout au long de notre vie, on apprend à le reconnaître, on apprend à se défendre. Mais c'est pas le mal qui nous guérit, c'est pas le mal qui fait quoi que ce soit. C'est nous qui nous défendons contre le mal. Et donc ça, c'est une différence, je pense, fondamentale avec l'homéopathie. La méthode n'est pas du tout la même, et c'est vraiment pas le virus qui va vous guérir. C'est vous qui vous guérissez. Donc je voulais juste mettre les choses un peu, pas mélanger tout ça, et donc faire le point sur l'homéopathie. Voilà, j'espère que c'était assez clair. J'ai justement fait une présentation pour dire qu'au niveau des dilutions, on comprenne ce que c'est. Et si on écrit le CH10 avec des 0,000, ça fera beaucoup de zéros. Je ne les ai pas tous écrits. Voilà. Seigneur, je te remercie de ce qu'on a la possibilité de se documenter, d'apprendre au sujet de ce qu'on utilise, Seigneur, et on te remercie d'avoir mis ces choses, Seigneur, d'avoir mis ces choses sur le cœur. Merci de ce qu'avait fait Kiss il y a quelques années. Et Seigneur, c'est des choses qui sont petites, mais tu désires qu'on soit fidèle dans les plus petites choses, Seigneur. Et je te prie pour chacun d'entre nous qu'on soit pas bloqué par le malin, qu'il ait pas une accroche sur nous à cause de ces choses. Mais que, Seigneur, qu'on soit totalement libre de tout ça, totalement en dehors de tout occultisme, Seigneur. Et que tu nous aides aussi avec toutes les autres choses, Seigneur. Il y a tellement de choses qui nous entourent, Seigneur, des nouvelles médecines, des nouveaux moyens de se soigner. Et je te prie de nous aider à avoir la sagesse de nous documenter, de rechercher l'origine des choses, Seigneur. Et de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu permets la médecine. Seigneur, mais d'une certaine façon, c'est toi qui guéris quand même. Et je te prie qu'on soit tous à ton écoute pour savoir ce que tu as pour nous et de venir à toi pour obtenir la guérison, Seigneur. Amen.